Mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Trinquel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, mon invité est Denis Faïk. Bonjour Denis.
Bonjour Irène.
Denis, vous êtes né le 19 juin 1964 à Madagascar. Vous avez trois frères et deux sœurs. Vous effectuez votre scolarité à Toulouse, d'abord à l'école Saint-Stanislas, puis au collège Émile Zola, au lycée professionnel Hélène Boucher et enfin au lycée général Émilie de Roda. Vous fréquentez l'université Paul Valéry à Montpellier et Jean Jaurès à Toulouse. Vous obtenez un doctorat de philosophie. Aujourd'hui, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'ICT, Supaéro et l'Université du Capitole. Vous êtes également professeur de yoga, diplômé de l'Institut français de yoga. Vous avez écrit deux livres sur Jean-Jacques Rousseau, un en 2009 et un en 2012. En 2013, un livre, « Ne cherche pas et tu trouveras », l'art de vivre inspiré du zen, du tao et du yoga, et « Débrancher la machine à penser » en 2016. Ces deux livres dans le cadre de votre enseignement du yoga. Vous sortez récemment la belle histoire d'une jeune femme qui avait le canon d'un fusil dans la bouche, aux éditions Fleuve. C'est à ce titre que je vous reçois, mais nous en parlerons plus longuement tout à l'heure. Mais avant, je vous propose de faire découvrir aux auditeurs le petit garçon que vous étiez. Nous avons dit que vous êtes né à Madagascar. À quel âge êtes-vous arrivé à Toulouse ?
Alors, nous avons, avec ma famille, quitté Madagascar en 67, si ma mémoire est bonne. Et avant d'arriver à Toulouse, on est passé par Épernay.
D'accord.
Voilà, nous avons passé deux ans et demi à Épernay, deux ans. Et nous arrivons à Toulouse à la fin de l'année 69.
À la fin de l'année 69. Donc, vous êtes arrivé en France, en fait, en 66-67, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On a quitté Madagascar en 67. Oui, on arrive en France dans le courant de l'année 1967.
Donc, vous avez vécu trois ans, simplement, dans votre pays de naissance ?
Oui, j'ai vécu...
Des souvenirs ?
Non, je n'ai aucun souvenir. Mes frères et sœurs qui sont plus âgés en ont. Non, trois ans, c'est quand même très court. Je n'ai absolument aucun souvenir de mon existence là-bas. Alors, je suis retourné avec mes frères et sœurs à Madagascar il y a deux ans, un an et demi. Et pour moi, c'était une découverte totale. Pour eux, c'était une redécouverte. Mais,
Donc, les ressentis ont été différents ?
Absolument.
Parce qu'ils avaient des souvenirs que vous n'aviez pas ?
Oui. Absolument. Surtout ma sœur aînée, notre sœur aînée. Qui a...
Quelle différence d'âge avec vous ?
Nous avons 8 ans d'écart.
Oui, donc elle, bien évidemment, elle était...
Voilà, nous avons 8 ans d'écart.
C'était une petite fille qui avait l'âge d'avoir... Qui est partie de là-bas, elle avait 10-11 ans.
Oui, tout à fait. Donc oui, les ressentis étaient complètement différents, dans la mesure où moi, je découvrais un pays qui était tout à fait nouveau.
C'était simplement... J'ai presque envie de dire comme si vous visitiez un pays quelconque en vous disant simplement que vous étiez né là-bas.
Oui.
Pas plus. Hein.
Alors peut-être un petit peu plus puisque j'ai aussi vécu les sentiments et les émotions de mes frères et sœurs. Et en étant là-bas, nous avons essayé aussi de retrouver l'appartement où nous avons vécu à Antananarivo, les endroits de la vie quotidienne. Donc, j'ai aussi vécu ces émotions.
Vous êtes partis tous les six là-bas ?
Non, en fait, mais nous sommes quatre à être nés à Madagascar, les quatre aînés, et mes deux frères plus petits sont nés à Toulouse.
D'accord.
Donc, eux ne sont pas venus avec nous.
D'accord.
Nous sommes partis tous les quatre.
D'accord. C'était important ce voyage ?
Oui, c'était un voyage très important. Mes deux parents sont décédés. Après le décès de maman, il y a 4 ans maintenant, nous avons pris la décision de faire ce voyage. Une sorte de retour aux sources, finalement. Donc c'est un voyage très important. Nous avons d'ailleurs l'intention d'y retourner. C'est une sorte de pèlerinage. Un pèlerinage plein de nostalgie, de retour aux sources, de retour aux origines. Donc c'est très important et on a aussi redécouvert, découvert pour moi une relation avec mes parents différente. Mon père a quand même passé 20 ans à Madagascar. Donc c'était pas simplement une transition pour lui, c'était un moment très important de sa vie.
Il était né en France, votre papa ?
Non, mon père est né en Syrie. D'accord. À Alep. Et il a passé 27 ans, si ma mémoire est bonne, de sa vie là-bas, en Syrie, puisque j'ai des origines orientales, des origines syriennes, et mon père était de nationalité syrienne et a été naturalisé français en 47, je crois, en 1947.
Et votre maman ?
Ma maman est française, elle est née à Paris, d'origine bretonne, et ils se sont rencontrés à Madagascar.
Pourquoi ce choix de vos parents de venir à Toulouse ?
Alors, Madagascar était une colonie française à l'époque, et Madagascar ensuite a obtenu son indépendance. Donc, la raison officielle du départ, c'est cette indépendance-là. Il y a peut-être d'autres raisons que je ne connais pas. Mon père, donc mes parents, avec leurs enfants, nous quittons Madagascar pour arriver à Épernay. Et ces 2 ans à Épernay ont été... Alors moi, j'étais encore petit, puisque j'avais 3 ans, 4 ans. Donc ce sont les témoignages de mes frères et sœurs ce témoignage-là qui a montré que ces 2 ans ont été absolument épouvantables pour différentes raisons. Et donc, mes parents voulaient absolument quitter ce lieu. Et Toulouse ne s'est pas imposé, mais pour des questions professionnelles, Toulouse a été proposée, voilà, à mon père, et nous sommes arrivés ici donc à la fin de l'année 69.
Vos deux parents travaillaient ?
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Oui. Alors, vous dites que vous avez 3 frères et 2 sœurs. Donc, on a dit que vous étiez le numéro 4, c'est ça ?
Oui.
Avec 3 premiers plus grands.
Oui.
Deux petits derniers.
Oui.
Après, est-ce que c'est difficile d'être le 4e d'une fratrie comme ça, de 6 enfants ?
Non. Enfin, je ne l'ai pas vécu comme cela. C'est vrai que j'ai une position un peu particulière, puisque les 3 aînés sont espacés d'une année. Ensuite, moi, j'arrive après mon frère, 5 ans après mon frère. Donc, il y a quand même une distance. Et les 2 derniers arrivent 6 ans et 8 ans après moi. Si bien que je suis dans une position où je suis trop petit pour les grands et trop grand pour les petits.
Mais ça vous a isolé ?
Alors non, je ne me suis jamais senti isolé. Paradoxalement, on pourrait penser effectivement que cette place dans une fratrie comme celle-ci aurait pu me mettre à l'écart. Mais non, je ne me suis jamais senti isolé. Je me suis toujours senti intégré autant que faire se peut par les grands. Et intégrer autant qu'il est possible par les petits. Mais je ne me suis jamais senti isolé.
Donc vous étiez une grosse famille comme ça, une sacrée colonne vertébrale quand même, d'être élevé avec des frères et sœurs, avec des parents.
Oui.
Quand vous cherchez dans votre tête, quel est le souvenir le plus lointain de Toulouse que vous ayez ?
Le souvenir le plus lointain concernant ma famille ?
Ce bien-être familial, justement, à Toulouse.
Alors écoutez, le souvenir qui surgit comme ça immédiatement, c'est une anecdote, mais finalement, puisque ce souvenir surgit, ce n'est plus une anecdote, mais quelque chose sans doute d'essentiel. Je me revois encore rue Alsace-Lorraine. Je ne sais pas, je devais avoir 5 ans, peut-être 6, et je vais au cinéma. Pour voir, je crois que c'est Tintin au Temple du Soleil. Voilà le souvenir qui me vient tout de suite. Et du bonheur.
Du bonheur ?
Oui, du bonheur parce que j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu une enfance heureuse. Quand je pense à mon enfance, il n'y a que des moments agréables. Et ça, c'est une chance.
Votre père était strict. Pourquoi cette question ? Je vais développer. Parce qu'il me semble que, d'abord, on est dans une autre époque aujourd'hui, évidemment. Et quand on avait 6 enfants, je pense qu'il fallait avoir un minimum de rigueur pour pouvoir les élever.
Oui. Mon père était très strict. Il était extrêmement strict, une autorité très forte. et en même temps une grande sensibilité. Une sensibilité qu'il laissait transparaître de temps en temps, et je crois une pudeur aussi qu'il... son autorité était aussi une armure qui lui permettait de se préserver, je crois. Mais une grande sensibilité, mais il était extrêmement autoritaire. Et d'ailleurs, son activité professionnelle, mon père était surveillant général à l'école Saint-Stanislas. C'est une profession qui... Enfin, le terme, tout au moins, n'existe plus.
Et, ça me rappelle une chanson de Michel Sardou.
Oui, absolument. Il était surveillant général et moi, j'ai été à l'école Saint-Stanislas durant mon enfance et il était extrêmement strict. Il y avait une autorité, une présence. Mais en même temps, c'était une autorité qui forçait le respect. Voilà. Ce n'était pas de l'autoritarisme, si je puis dire. C'était une autorité qui forçait le respect. C'est la figure du père, si vous voulez, du père d'une grande famille.
L'autorité et l'affection.
Absolument.
Et votre maman ?
Maman était plus discrète. Pour vous dire ce que maman était, lors de son décès, au moment des obsèques, j'ai pris la parole. Et il y a une phrase qui m'est venue. D'abord, c'est quelqu'un qui allait toujours bien. Quoi qu'il arrive, elle allait bien.
Elle ne se plaignait jamais.
Jamais. Et cette phrase qui m'est venue, c'est « Elle nous a appris beaucoup de choses sans nous donner de leçons. Elle nous a appris beaucoup de choses sans nous dire « Fais ceci ou fais cela. » Voilà, ça, c'était sa discrétion. C'était sa manière d'être. Et quand on est enfant, on ne se rend pas compte. On ne voit pas cela. C'est plus tard, quand on est adulte, qu'on porte un regard différent sur ses parents. On ne les regarde plus comme le père ou comme la mère, mais on porte un regard sur des êtres humains.
Bien sûr, puisqu'on est soi-même adulte, évidemment.
Oui, on porte un regard sur un homme et une femme, et c'est là qu'on peut davantage se rendre compte de ce qui s'est passé, de se rendre compte des fragilités.
Bien sûr, des forces et des faiblesses.
Et de leurs forces, tout à fait.
Bien sûr. Alors, vous êtes à Saint-Stanislas, puis au collège Émile Zola. Comment se passent ces années de scolarité ? Vous êtes bon élève ?
Non.
Ah.
Alors non, je ne peux pas dire que je suis un bon élève. Durant la petite scolarité, je suis un élève extrêmement moyen. Je fais ce qu'il faut pour progresser, enfin pour progresser, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais disons pour passer d'une classe à l'autre. Durant le collège, je ne suis pas non plus un bon élève. On peut dire même d'ailleurs que je suis ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si le terme est toujours usité aujourd'hui, ce qu'on appelle un cancre. Le dernier de la classe, voire l'avant-dernier. Ce qui m'a valu d'ailleurs à la fin de la classe de 3e d'être expulsé du système scolaire classique, traditionnel. Et j'utilise le mot expulsé à bon escient. Je suis expulsé littéralement avec une manière très, j'allais dire cavalière, si vous me permettez le terme. Et c'est à la suite de cela que j'arrive au lycée professionnel Hélène Boucher pour passer un CAP, un BEP. On me propose une orientation à la va-vite. On me demande ce que je veux faire alors que je n'en sais strictement rien. Et la seule chose que je savais, c'est que je ne savais pas travailler de mes mains. Donc j'ai demandé un CAP, un BEP dans les bureaux. Voilà. Et je passe donc un CAP et BEP d'agent immobilier, ou plutôt d'aide agent immobilier. Je ne sais plus exactement quel était le terme utilisé à l'époque. Et je me rends compte très vite, à l'issue de ces 2 ans, qui ont été d'ailleurs 2 ans extraordinaires, que ce n'est pas du tout pour moi. Et je réintègre le cycle classique, donc je reviens en première, en terminale, je passe le bac.
Alors, on va oui. S'arrêter justement sur ce CAP, ce BEP. Quand vos résultats scolaires vous obligent à faire ce CAP, ce BEP, quelle est la réaction de vos parents ?
La réaction de mes parents est pourrait paraître assez étonnante, ils ont une bonne réaction, ou tout au moins, devant moi, ils n'expriment aucune colère, aucun ressentiment, aucune leçon ne m'est donnée.
De toute évidence, vous n'êtes pas cancre parce que vous avez des problèmes d'apprentissage. On voit bien sur la suite que vous avez eu un cycle tout à fait classique et puis que vous êtes arrivé au doctorat de philosophie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc ce n'est pas un problème d'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que c'est parce que vous êtes feignant tout simplement, comme souvent les adolescents à une période donnée de leur enfance, de leur adolescence peuvent être très feignants et avoir de moins bons résultats, et ce n'est pas un manque de pouvoir apprendre, ça n'a rien à voir avec ça. Ou est-ce que c'est une sorte de rébellion par rapport à votre famille, par rapport à vos frères et sœurs, par rapport à votre démarrage de jeune homme dans la vie ? Pourquoi, justement, à ce moment-là, vous êtes obligé d'arrêter le cycle classique de vos études pour classique entre guillemets, pour faire un CAP-BEP ? Alors que vous avez tout à fait les capacités, on le voit par la suite, de faire autre chose.
Alors, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse extrêmement précise à vous donner. Il n'y a aucune rébellion par rapport à ma famille, aucune rébellion par rapport à mes frères et sœurs. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que je ne m'adapte pas au système scolaire. Surtout au moment des classes de 4e, 3e, je ne m'y adapte pas. Ce n'est pas dans un esprit de révolte ou de rébellion quelconque. Je suis trop jeune et trop adolescent, j'allais dire. Je n'ai pas de problème avec de relation avec mes parents. Je ne suis pas dans une révolte.
Vous avez des amis, des copains, tout se passe bien. Vous avez une vie tout à fait normale de jeune garçon, oui, qui grandit sans, oui, difficulté aucune.
Sans difficulté aucune. Je pense tout simplement que je ne m'adapte pas au système scolaire, à la manière dont c'est organisé, au travail qu'il y a à faire, à la manière de se comporter avec des enseignants, à la structure scolaire que je ne critique pas. Enfin, j'ai des critiques sans doute à apporter au système éducatif tel qu'il est conçu, mais à ce moment-là, je ne correspond pas à ce qui est demandé.
Vous avez été peut-être, enfin je ne sais pas, c'est une question. Un enfant précoce, souvent les enfants précoces ne sont pas adaptés au système scolaire comme il existe en France, et peut-être que vous n'aviez pas été détecté, c'est une question.
Je ne pense pas que j'ai été un enfant précoce. Maintenant, c'était une époque où la question ne se posait pas, mais je ne crois pas.
En tout cas, vous avez eu cette chance de pouvoir au final revenir. Alors, pourquoi, oui, je dis cette chance ? Non pas que ce soit une malchance de faire un CAP-BEP dans l'immobilier. Si on aime ça et qu'on veut en faire sa carrière, c'est également une chance.
Absolument.
Vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez pas du tout envie de faire ce métier. Donc, ça a été une chance dans ce sens de pouvoir revenir à des études classiques. Et donc, si je comprends bien, vous arrivez au bac et à ce moment-là, j'imagine qu'il y a un réveil, il y a quelque chose. La, oui, terminale, oui, vous découvrez la philo.
J'arrive en terminale, je découvre la philosophie et là, c'est un coup de foudre pour la philosophie. Ça, c'est une passion qui... Alors, j'utilise le mot coup de foudre puisque c'est exactement ce qui se passe.
Quel bac vous avez passé ?
Alors, j'ai passé un bac technologique. À, oui, l'époque, ça s'appelait G3.
Oui.
Puisque, en fait, pour revenir dans le système classique, je ne pouvais accéder qu'à un bac technologique, technique.
Et j'arrive. Bac G, on est toujours sur Sardou.
Oui. je n'aime pas du tout ce que je fais, mais je le fais parce que je sais que c'est la seule possibilité pour moi d'obtenir un bac. Pour faire de la philosophie. Donc je n'aime pas ce que je fais, mais je le fais. Et arrivé donc en classe de terminale, j'ai un coup de foudre pour la philosophie que j'ai toujours, encore aujourd'hui, cette passion. Et là, je me dis, c'est ça et ça ne sera rien d'autre. Ma vie, ça sera la philosophie.
Et là, du coup, vous êtes déterminé.
Là, je suis déterminé. à avoir le bac, donc, pour pouvoir accéder, puisque à l'époque, on pouvait accéder à n'importe quelle université avec un bac, ce qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, si j'avais dû suivre ce parcours aujourd'hui, je n'aurais pas pu.
Oui.
Voilà, je n'aurais pas pu accéder à une faculté Absolument. De philosophie.
Alors, expliquez-moi pourquoi vous avez été à l'université à Montpellier, Paul Valéry, avant d'être à Jean Jaurès.
Alors, en fait, je fais d'abord 4 ans à Jean Jaurès. Et je pars à Montpellier pour des raisons administratives. Tout simplement parce que l'université, enfin ma faculté, a perdu l'habilitation pour délivrer ce qu'on appelait avant des DEA, qu'on appelle aujourd'hui Master 2.
C'est ça.
Donc je pars à Montpellier pour faire cette 5e année. J'obtiens ce diplôme, ce Master 2 à l'Université de Montpellier, et je reviens ensuite à Toulouse pour le doctorat. Donc je suis parti là-bas juste pour une question administrative.
D'accord. Denis, je vous propose tout de suite une première pause musicale et votre choix s'est porté sur La Bohème de Charles Aznavour. On écoute.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Merci. très belle chanson de Charles Aznavour. Pourquoi ce choix ?
D'abord parce que c'est Aznavour. Ensuite parce que c'est une chanson, je crois, qui exprime tout le fond de ce qu'on appelle l'art et la vie de l'artiste. C'est une chanson sur l'illusion, c'est une chanson sur la désillusion, c'est une chanson sur la passion, c'est une chanson sur... vous savez, à deux reprises dans la chanson, il parle du ventre creux, il parle de... on ne mangeait qu'un jour sur deux. Et en même temps, cela n'a strictement aucune importance. Cet aspect de la vie, en fait, qui est... ce qui est utilitaire, ce qui est utile, ce qui nous ramène à nos besoins, ce qui nous ramène aux exigences de la vie, tout ça n'a strictement aucune importance au regard de la passion. J'évoquais tout à l'heure la passion. Tout ça n'a aucune importance au regard de la passion. On est porté, on est transporté. C'est ce qui fait notre humanité. Et je crois qu'il y a une relation avec la philosophie, entre l'art et la philosophie. C'est l'oubli de tout ce qui nous ramène à notre condition animale. Le fait que Aznavour parle du ventre, parle de manger, parce qu'il utilise ce terme, hein. Il ne parle ni de déjeuner, ni de dîner, il parle de manger. Tout ce qui nous ramène à notre condition animale, c'est ce qui n'intéresse absolument pas l'artiste. En même temps, il y a l'illusion. Dans la passion, il y a une part d'illusion. Il y a, je crois, deux sens dans cette chanson aussi qui me semblent intéressants et qui n'est pas dit, d'ailleurs. On peut interpréter cette chanson de deux manières. La première, c'est l'artiste qui revient de façon très nostalgique sur sa jeunesse et qui a perdu, si j'ose dire, sa passion. Mais en même temps, c'est peut-être l'artiste qui a réussi, qui est arrivé tout à fait au sommet. Et finalement, arrivé au sommet, il revit la nostalgie de l'origine. Alors bien sûr, c'est la jeunesse, le temps qui passe, Aznavour, hein, on connaît bien ça chez lui, mais en même temps, ce n'est pas simplement revenir sur sa jeunesse, c'est revenir sur les braises de la passion qui a emporté vers les sommets, non pas les sommets de la réussite, non pas les sommets du succès, mais les sommets de la passion. Et je crois que dans cette chanson, il y a tout cela. Et quand j'entends cette chanson, il y a quelque chose de moi, je crois, à l'intérieur. Donc ce choix s'était imposé pour moi.
Avant qu'on commence la deuxième partie de l'émission, j'aimerais que vous nous disiez la place de l'éducation religieuse. Vous avez reçu, donc vous êtes catholique. Quelle a été l'éducation religieuse donnée par vos parents ? Était-il pratiquant ? Êtes-vous croyant ?
Alors, il y a plusieurs questions.
Il y a plusieurs questions, mais je veux que vous répondiez sur avec vos yeux de petit garçon, pas avec... un discours de philosophe à aujourd'hui.
Ah oui, donc je reviens dans mon enfance.
Vous revenez, c'est pour ça que je vous ai dit avant qu'on commence justement votre vie d'adulte.
Bien sûr.
Alors, parce que j'imagine bien que la réponse sera différente si je vous la repose en fin d'émission à 53 ans.
Oui. Mes yeux d'enfant, pour moi, je vous disais au départ que mon enfance a été heureuse. Elle a été heureuse aussi pour une raison, mais ça je m'en suis rendu compte après, c'est que tout était évident. La vie coulait de source. Elle coulait de source et donc chaque chose qui se mettait en place dans ma vie ne me posait pas de problème. Et donc je ne me posais pas de questions. Pour se poser des questions, il faut avoir un problème et je n'avais pas de problème. Donc les choses coulaient de source. Et donc l'éducation religieuse coulait de source. Bon, j'étais à l'école Saint-Stanislas, donc qui est une école qui était régie et tenue par les jésuites, et donc avec le catéchisme, etc.
Et baptisé, communié,
oui, j'imagine. Tout, oui, j'ai fait à peu près tout, mais je ne me mon regard d'enfant, mon regard d'enfant n'est pas un regard questionneur, n'est pas un regard révolté, puisque nous avons évoqué le terme tout à l'heure. Ça coule de source, donc je n'ai pas de problème. Et puis, mes parents ne sont pas forcément pratiquants. Il n'y a aucune exigence religieuse, rien n'est imposé. Bon, si mon père nous demandait à Noël d'aller à la messe le 24 au soir, mais à part ça, non, il n'y avait pas d'exigence particulière.
Alors, merci. On va justement entrer dans cette deuxième partie où vous voilà un homme. Vous avez donc votre doctorat de philosophie et c'est une évidence pour vous de vous installer à Toulouse et d'enseigner à Toulouse. Vous n'avez jamais eu envie de voyager, de vous installer ailleurs. On reviendra sur justement les voyages, mais pour vous installer en tant qu'homme, vous êtes resté à Toulouse.
Oui, Toulouse, c'est la ville pour moi, tout au moins en France. C'est la ville qui s'impose. Je n'ai jamais eu envie, je n'ai jamais eu le désir de quitter Toulouse. Tout au moins pour ce qui est d'y vivre et d'y exercer ma profession. Non, ça jamais. Ça ne s'est jamais imposé et je dirais même que j'ai souhaité et je souhaite demeurer à Toulouse.
Donc un vrai Toulousain.
Je suis un vrai Toulousain en ce sens où, pour être Toulousain, je pense qu'il faut aimer profondément sa ville. Donc j'y suis depuis un petit moment maintenant et je l'aime toujours autant et j'y découvre toujours des choses dans cette ville dans laquelle j'aime déambuler, flâner, me promener. Mais c'est une ville qui s'impose, donc de toute façon, il n'était pas question d'aller m'installer ailleurs.
Quand je vais faire travailler votre mémoire encore, Denis, mais avec ce parcours, on va dire, assez chaotique pour en arriver prof de philo, et c'est tout à votre honneur, est-ce que vous vous souvenez du ressenti lors de votre premier cours ?
Mon premier cours de philosophie ?
Oui. En tant que professeur, j'entends.
Oui. Mon premier cours de philosophie, je le donne en classe de terminale. Depuis, j'ai quitté le lycée. Je le donne en classe de terminale.
Vous avez commencé par être prof au lycée.
Oui, je n'ai pas resté très longtemps au lycée, peut-être 4-5 ans.
Dans quel lycée ?
Un peu partout.
Un peu partout.
Un peu partout à Toulouse. Écoutez, le premier ressenti,
Vous deviez avoir une certaine fierté.
J'avais une fierté, je ne sais pas. En tout cas, mon premier cours, je donne dans ce qu'on appelle vous savez, c'est ce qu'on appelait avant les boîtes à bac, qui est constitué d'élèves qui étaient en échec scolaire, comme j'ai pu l'être, et qui ont sans doute pris la décision, à un moment donné ou à un autre, de revenir dans un système scolaire afin de pouvoir passer le bac. Et en fait, ce qui me frappe d'abord, c'est la différence d'âge. Puisqu'on a très peu de différence d'âge.
Oui, bien sûr.
Puisque ce sont des gens qui reprennent des études, qui ont, je me rappelle avoir eu un élève de 21 ans, à l'époque j'en ai 26. Donc on est pratiquement de la même génération.
C'est ça
qui me frappe d'abord. De fierté, non. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ce sentiment-là. Non, ce que je retiens, c'est cette différence d'âge. On était, d'ailleurs, je me rappelle à la fin de l'année d'avoir été invité à une fête avec mes élèves. Et je ne me sentais pas vraiment comme un professeur parmi ces élèves. Voilà, ça c'est mon premier souvenir.
Alors, vous enseignez d'abord au lycée, après à la fac, toujours à Toulouse.
Toujours à Toulouse.
Vous avez enseigné qu'à Toulouse.
Je n'ai enseigné qu'à Toulouse. J'ai donné des conférences à Paris, dans des endroits différents, mais l'enseignement stricto sensu à Toulouse.
Vous avez écrit deux livres, on a vu, deux livres de philo sur Rousseau. On oui. peut en dire deux mots.
Oui, bien sûr. Alors, le premier livre qui s'appelle « Le travail, anthropologie et politique », qui a été publié aux éditions Drault à Genève.
C'est donc en 2009.
En 2009.
Vous aviez 44 ans.
Autant que ça.
Oui, oui. Oui, oui.
Oui, en fait, je découvre à l'université, je découvre la pensée. Je travaille sur la philosophie des Lumières et je découvre la pensée de Jean-Jacques Rousseau, qui m'intéresse particulièrement. C'est quelqu'un qui est à la marge parmi les philosophes des Lumières. C'est quelqu'un qui est un peu à la marge et donc il m'intéresse. Je fréquente son œuvre et il en ressort ce premier livre sur le concept de travail dans sa philosophie. Quelques années après, en 2012, on fête le tricentenaire de sa naissance. Et je publie ce deuxième livre, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, La cité et les choses, qui est le fruit d'un ensemble de réflexions, de notes que j'ai pu prendre pendant les années qui ont précédé. Et j'ai regroupé cela pour en faire un livre pour le tricentenaire donc de sa naissance, qui a été publié à Toulouse par les éditions Priva, donc en 2012. Et ensuite, j'ai considéré que c'était suffisant et j'ai laissé Jean-Jacques Rousseau de côté pour me consacrer à autre chose.
Alors, on a dit en introduction que vous étiez également professeur de yoga.
Oui.
D'ailleurs, vous avez écrit, on l'a dit également, en 2013 et 2016, deux livres sur le yoga. Comment c'est venu le yoga et quelle est la place du yoga dans votre vie aujourd'hui ?
Le yoga s'est imposé dans les couloirs de l'université, ou plus précisément dans les rayons de la bibliothèque universitaire. Je suis étudiant à l'époque et je cherche des livres dans les rayons de la bibliothèque, et je tombe plus ou moins par hasard sur un livre d'un anthropologue qui s'appelle Mircea Eliade. Ce livre s'intitule « Yoga, immortalité et liberté », qui est publié, je crois, chez Payot. Ce livre m'intrigue. Alors, j'avais quelques pensées, ça et là, sur le yoga, mais vraiment sur la philosophie indienne. Mais c'était vraiment ça et là, si je peux dire. Rien de précis. Et je tombe sur ce livre qui m'intrigue, le titre m'intrigue. Je le lis et là, je découvre effectivement ce qu'est le yoga. Mais je le découvre de manière théorique, dans la lecture. Et je m'aperçois assez vite que pour vraiment comprendre ce qu'il est, ce que le yoga est, il est nécessaire de pratiquer. Il est nécessaire d'engager son corps, si je peux dire.
Diriez-vous que le yoga est la philosophie du corps ?
Alors, c'est votre question est complexe. Tout dépend de ce qu'on entend par philosophie. Une philosophie du corps, disons. Une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'exister au travers et dans son corps. Donc je me rends compte très vite que pour vraiment saisir le fond et l'essence du yoga, il est nécessaire de pratiquer, il est nécessaire d'engager son corps. Donc je commence à pratiquer. Et là, c'est un deuxième coup de foudre après celui de la philosophie. Et le yoga ne me quittera plus jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une place très très importante dans ma vie.
Vous donnez des cours ?
Oui. Je donne des cours.
Mais comment ? Dans une salle chez des particuliers ? Comment ça se passe ?
Alors, je donne un cours hebdomadaire dans une salle, dans un club. Et ensuite, c'est un cours d'une heure et demie. Et ensuite, j'anime des stages mensuels d'une durée de 3 heures, voilà, un samedi par mois. Et puis, j'organise aussi des stages à l'extérieur de Toulouse qui peuvent durer 2, 3, 4 jours.
Et comment on fait Je profite qu'on soit à la radio, justement. Des auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient pouvoir suivre vos stages, ils font comment pour vous contacter, pour savoir où sont les stages, comment il faut faire ?
Alors, il y a un site internet, le site internet de l'École française de pratique et de philosophie de yoga que nous avons fondé avec des amis, Le site internet, c'est l'EFPY, en fait, le sigle EFPPY.fr, avec 3W devant.
Oui.
Et sur le site, on peut accéder à toutes les informations.
Vous avez également une page Facebook pour le yoga ?
Non. Le yoga, il y a ce site-là. Ensuite, j'ai un site qui m'est personnel et une page Facebook personnelle.
Voilà.
Mais là, c'est plutôt pour mes activités dans
ça
la littérature.
Ça n'a rien à voir avec le yoga.
Voilà, c'est complètement différent.
C'est vraiment important pour vous. Vous en avez besoin, du yoga ?
Oui, c'est une importance fondamentale. C'est une importance fondamentale. L'être humain, je pense, l'être humain a au moins deux aspects qui sont liés par essence, mais qui sont, je crois, dans notre vie trop séparés. La première, c'est nous sommes des êtres cérébraux. Nous pensons, nous conceptualisons, nous parlons. Et le deuxième aspect, c'est ce qui a effectivement trait au corps, la sensation, sentir, l'affectivité. Et je crois que dans notre existence, nous avons tendance à être emportés par cette séparation-là entre le corps et l'esprit, l'activité physique et le mental. Et il me semble que pour vivre profondément, vivre les deux me semble être une philosophie. Et cette philosophie, je la fais mienne. Enfin, j'essaie de la faire mienne. Donc parfois, je conceptualise, je raisonne en tant que philosophe, et parfois j'essaie de faire le silence, de me taire et de sentir.
Vous pratiquez un sport ?
Oui. Le sport a une très grande place dans ma vie, aussi depuis de nombreuses années. Je pratique les arts martiaux. J'enseigne aussi la self-défense à mes étudiants de super-héros. Je pratique de la musculation, je fais un peu de jogging, un peu de tout. On va dire. Mais sinon, c'est quand même centré autour des arts martiaux. Je fais de la culture physique. Et voilà.
Et la musique, êtes-vous musicien ?
Alors, je l'ai été. J'ai d'ailleurs fréquenté le conservatoire de musique de Toulouse. En classe de batterie, j'ai obtenu, c'était dans les années 80, j'ai obtenu un premier prix du conservatoire. À l'époque, je jouais avec le Big Bang du conservatoire, avec des amis, nous avions monté un groupe de jazz qui s'appelait Key Largo, du nom de ce film dont j'ai oublié le réalisateur, avec Humphrey Bogart. Et j'ai, à la suite du coup de foudre que j'ai eu pour la philosophie, j'ai dû faire un choix. Et ce choix s'est imposé, bien sûr. Donc je me suis orienté vers la philosophie et j'ai délaissé progressivement la musique. Mais je ne désespère pas de reprendre cet instrument un jour.
Oui, bien sûr, c'est important. En dehors du jazz, donc vous aimez le jazz, vous venez de le dire, qu'est-ce que vous écoutez comme musique ?
Je n'écoute pas de musique en particulier. Je peux écouter la radio. Je peux écouter de la variété, je peux écouter de la musique classique, je peux écouter du jazz. Donc je n'écoute pas forcément de la musique, enfin je veux dire une musique en particulier. Alors je peux tout écouter. Donc.
Vous aimez la musique classique ?
J'aime la musique classique, par contre je n'en écoute pas suffisamment. Voilà. Après, c'est toujours des questions de priorité. Mais oui, j'aime beaucoup la musique classique.
Je vous propose une deuxième pause musicale, Denis, et je vous laisse annoncer votre deuxième choix.
Alors, le deuxième choix, c'est un musicien qui s'appelle Nicolas Repac, chanteur, musicien, compositeur. C'est un morceau qui s'appelle Bob's Lumberjack, qui est issu de son album qui s'appelle Black Box. Et je vous dirai pourquoi après j'ai choisi ce morceau.
On écoute.
He stood 7 feet tall and 5 feet wide. He had a beautiful. beautiful woman standing by his side. She could swing her axe just as hard as he could. She used to run and help him chop all the house wood. Who? The mighty diddly. Mighty bold diddly. The mighty lumberjack. He had steel in his arms and he called it bone. He used muscles in his arms and he called them stone. Somebody said something about his bride. You know this cat was born to die. Oh, yeah. From a left hook and a whizzing right hand, sent this cat to his resting land. The trees and leaves fell upon the ground. The same wind stirred up the clouds and snow appeared on down. The mighty lumberjack. Timber they cry all day and all night. The mighty, mighty lumberjack. Some of them cried, some of them fret again. Have no fear, that's Bo's axe sucking wind. Mighty Bo Diddley. Mighty lumberjack. Don't run away, because I'm still chopping trees, holly timber. I'll be hollering timber from now on. A mighty lumberjack.
Alors, on est effectivement sur un choix très différent du premier. Expliquez-moi ce choix.
D'abord, j'aime beaucoup ce disque, Black Box, de Nicolas Repac. Ce que j'aime beaucoup dans sa musique, c'est le métissage, puisqu'on peut reconnaître de... Alors, il a un autre album qui s'appelle Swing Swing, dans lequel on peut aussi entendre cela. Une harmonie entre le blues, entre des musiques amérindiennes, africaines, électroniques, haïtiennes. Et il arrive à mêler tout cela et je crois faire quelque chose d'extrêmement saisissant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi Nicolas Repac, mais la deuxième raison, c'est que c'est un ami qui a un grand talent. Que j'ai rencontré en classe de terminale, c'est une rencontre importante dans ma vie. On a découvert la philosophie ensemble, on a commencé la philosophie ensemble. Et bon, aujourd'hui, lui a fait le choix à l'époque de partir à Paris pour la musique. Moi, j'ai fait le choix d'entrer en philosophie.
Vous êtes toujours resté en contact ?
Oui, nous sommes toujours amis. Alors, comme je le dis, c'est pas pour ça que j'ai choisi ce morceau. Je l'ai choisi d'abord parce que c'est un artiste de talent. Voilà.
C'est important pour vous, l'amitié ?
Bien sûr. Surtout des amitiés qui durent si longtemps. Ce qui est frappant avec les amis, c'est que quand on ne les a pas vus pendant longtemps, et qu'on les revoit, on a l'impression de les avoir quittés la veille.
Ce sont les vraies amitiés. Je pense que c'est comme ça qu'on le ressent. Denis, Votre roman sorti récemment chez Fleuve Éditions, au titre long et explicite « La belle histoire d'une jeune femme qui avait le canon d'un fusil dans la bouche ». Cette jeune femme s'appelle Josiane. Je vais faire la lecture pour nos auditeurs du dos du livre pour qu'ils puissent se faire une toute petite idée du contenu. Et après, je vous propose d'en parler. Josiane est femme de ménage. Josiane est un peu laide. Josiane est presque grosse. Elle est assise sur la cuvette des toilettes de la gare du Nord, le canon d'un fusil dans la bouche. Après 30 ans de bons et loyaux services en tant qu'être humain, elle a décidé d'en finir. Mais avant de tirer, comme l'exige la légende et son amour pour le cinéma, elle va vivre un dernier film dont elle sera l'héroïne et laisser son histoire défiler. Avec, pour bande-son, les drôles d'énergumènes d'un hall de gare et des trains en partance. Ce qu'elle va découvrir sur elle-même et sur ceux qui ont croisé sa route jusqu'à cet instant crucial dépasse ce qu'elle pouvait penser. Est-ce sa vie qui foutait le camp ou ses yeux qui lui jouaient des tours ?
Alors Josiane, c'est une... J'y suis très attaché, bien entendu, à Josiane. Ce que je souhaitais faire, en fait, c'est de mettre en lumière, dans ce roman, une personne qui est dans l'ombre. Une personne que personne ne regarde, ou alors, peut-être pour se moquer, une personne qui, en apparence, n'a rien pour elle, en même temps une personne qui pense qu'elle n'a strictement rien pour elle. Et cette idée m'est venue de manière assez curieuse. J'étais chez moi, je passe devant la télévision, je m'assois quelques instants avant de retourner travailler, et il y a un film, une scène, il y a une fête, des gens qui discutent, et à un moment, l'un des acteurs quitte la pièce pour rentrer dans la cuisine, pour aller chercher, je ne sais plus, de l'eau ou des glaçons, peu importe. Et dans cette cuisine, il y a une femme qui est assise, qui a l'air triste, qui est seule. Et la scène s'arrête là. Le personnage ressort. Et en l'espace de quelques secondes, cette présence m'a frappé. Et je suis incapable de vous dire quel est le film, d'ailleurs. Cette présence m'a frappé et je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose. Là, il y a quelque chose à faire.
Diriez-vous que c'est un roman philosophique ?
Je l'ignore. Il y a certainement de la philosophie dans ce roman, mais à dire que c'est un roman philosophique, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe des romans philosophiques. C'est une question, hein, c'est une question problématique.
Alors, je tiens à faire une parenthèse. Il ne faut pas être effrayé par le fait que vous soyez prof de philo. Je suis blonde et je l'ai lu avec une très grande facilité parce que c'est un roman qui est d'abord très très bien écrit. Vous avez une écriture. Alors, j'ai pas envie de dire simple parce que c'est pas le mot. On le lit aisément. C'est fluide. C'est extrêmement régulier. Tous les chapitres le sont. On est pris dès le départ dans l'histoire. C'est vraiment très bien construit. Par contre, j'ai vraiment une question. Flaubert disait « Emma, c'est moi ». Diriez-vous que Josiane, c'est vous ? Dans le sens où Flaubert disait « Emma, c'est moi », on le sait, c'est parce que Emma, c'est chacun de nous. Est-ce que vous pensez que Josiane est chacun de nous ?
En tout cas, il y a certainement une part de nous qui correspond à ce qu'est Josiane, une part de Josiane qui correspond à ce que nous sommes. Et très certainement, pour répondre à votre question, une part de moi-même, mais je ne sais pas laquelle. Et finalement, je ne veux pas savoir laquelle.
Est-ce que moi, en lisant ce livre, je me suis dit, le sujet quand même traité dans ce livre est le pardon. Vous pensez que c'est le pardon que vous avez traité ? Il y a beaucoup de choses, bien sûr, mais ce pardon, on le sent, ce besoin de pardon, Et cette recherche de pardon, on le ressent sur, sur les trois quarts du livre. C'est le pardon aux autres, le pardon de soi. Et il y a, ce passage avec Hippolyte Punk, qui est l'ami homosexuel, qui devient sexué pour Josiane complètement, qui m'a fait penser au, à cette armoire à glace, ce monsieur de couleur dans La Ligne verte, hein, qui est un film extraordinaire. Et quand j'ai lu votre livre, pour moi, c'est, je n'ai plus le nom de, du personnage dans La Ligne verte, j'ai oublié. Mais si je revois le film, je pense que je me dirais, tiens, voilà Hippolyte Punk. Parce qu'on ressent exactement la même chose. D'abord, on ressent énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent dans votre livre. C'est vraiment un livre que je conseille à tous. On sent même, à travers le livre, votre gentillesse et votre bienveillance. Vous nous faites aimer votre personnage. Ce personnage est extrêmement attachant. Il n'y a pas d'autre mot. On a envie de lui dire qu'elle n'est pas seule, contrairement à ce qu'elle pense, qu'elle est profondément humaine, avec toutes les faiblesses d'un être humain, et qu'elle n'est pas la seule à avoir toutes ces faiblesses, qu'on les a tous. Le rôle de la mère est, est primordial dans, dans le livre. D'ailleurs, je voudrais simplement lire un tout petit passage que j'ai relevé, voilà, le temps de le trouver, ça donnera une idée de votre écriture. Donc Josiane parle sur ces quelques lignes de sa maman. Elle ne m'a jamais frappée, pas une seule fois, mais sa violence à elle était grammaticale. Ça a plus de style, non ? Plus de classe. Sans doute, car elle me cognait à coups de phrases avec sa bouche magnifique. Pendant que moi, je l'aimais. C'est tout. C'est magnifique. Vous n'avez pas... Excusez-moi. Doit-on avoir reçu l'amour de sa famille pour se laisser aimer ? Je dis bien pour se laisser aimer, pas pour aimer.
Question difficile. Je ne suis pas sûr de... de pouvoir répondre à cette question. En tout cas, Josiane ne reçoit pas l'amour de sa famille, ni de son père, ni de sa mère. Et elle arrive quand même à se laisser aimer. Parce qu'elle rencontre l'amour. Alors, c'est un échec, certes, mais quand même, elle découvre l'amour, elle a un coup de foudre, elle arrive à se laisser aimer. Et je crois que la...
Par une femme.
Par une femme, tout à fait. C'est le personnage d'Anna qu'elle rencontre dans des circonstances un peu particulières. Mais je crois que la, ce qui est important, cela est important, mais il y a plus important peut-être, c'est que... Alors je ne veux pas non plus en dire trop sur le livre, mais aussi la question de savoir, de, la question de s'aimer soi-même. Si on n'a pas été aimé, peut-on s'aimer soi-même ? C'est ça sans doute aussi l'une, au moins l'une des questions centrales du texte. Puisqu'elle ne s'aime pas elle-même. Alors je ne peux pas en dire plus parce que sinon ça serait livrer trop de choses sur le livre. Mais c'est l'une des questions centrales, effectivement, c'est le regard que l'on porte sur soi-même.
Oui. Encore une fois, je rappelle le titre de votre livre, La belle histoire d'une jeune femme qui avait le canon d'un fusil dans la bouche. Donc, c'est paru aux éditions Fleuve. Il est sorti quand, votre livre ?
Il est sorti le 11 janvier.
Le 11 janvier, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Moi, j'ai eu l'occasion de venir vous voir donc chez Priva, où vous aviez une dédicace. Vous m'aviez d'ailleurs laissé une jolie dédicace. Donc, voici l'histoire de Josiane à la marge, et pourtant, et la dédicace résume vraiment beaucoup de choses, effectivement. Vous avez prévu d'autres livres, d'autres romans ?
Oui, j'ai un autre roman qui devrait paraître en début d'année prochaine. C'est un tout autre sujet. C'est un roman sur la résistance. C'est l'histoire d'un petit groupe de résistants durant la Deuxième Guerre mondiale. Le roman est terminé. Je suis en train de travailler sur quelques détails. Et a priori, il devrait paraître en janvier, peut-être février 2019.
D'accord.
Ça, c'est pour les romans.
Oui. Toujours aux éditions Fleuve.
Toujours aux éditions Fleuve.
Oui.
Je viens de terminer un livre sur Voltaire.
Oui, donc Rousseau, c'était terminé. On passe à Voltaire.
Voilà. C'est un projet que j'ai déjà depuis plusieurs années. L'œuvre de Voltaire étant considérable, il faut beaucoup de temps. Même pour écrire un petit livre, il faut beaucoup de temps pour travailler sur Voltaire. Le livre est terminé. Et j'ai un projet actuellement. J'écris un livre sur la différence, un livre de philosophie comparative qui expose la différence entre la philosophie grecque et la philosophie indienne.
Celui-ci, il est prévu pour quand ?
Alors, je suis en train de l'écrire. C'est déjà l'objet d'un article que j'ai publié en décembre 2015 dans une revue philosophique qui s'appelle Le Philosophoire, qui est édité chez Vrin. Et je souhaite en faire un livre maintenant. Et c'est un livre que je viens de commencer, donc j'espère pouvoir le terminer le plus tôt possible.
Donc entre le sport, le yoga, vos cours et les livres, vous avez vraiment une vie bien remplie. Est-ce que ça vous laisse du temps pour de la lecture autre que de la philo ?
Peu, mais j'essaie quand même. Pour mon livre concernant la résistance, j'ai fréquenté quelques...
Bien sûr, voilà. Vous avez dû vous documenter, j'imagine.
Voilà, je me suis un petit peu documenté. Alors, j'ai pas voulu faire un livre historique, mais plutôt faire un roman de, comment pourrait-on dire, de situation. Mais quand même, pour éviter de dire des grosses bêtises sur la résistance, j'ai fréquenté quelques ouvrages d'histoire. Sinon, je suis un lecteur de poésie. J'aime bien lire de la poésie. Actuellement, je suis en train de lire Roberto Giarrosa, un poète argentin qui est admirable.
Mais voilà, vous ne tentez pas, vous ?
D'écrire
vous
de la poésie ?
Tenté, oui.
Si, bien sûr. Mais après, c'est en cours d'écriture. Voilà.
Ah.
C'est en cours d'écriture.
Ah, ça sera intéressant.
Je ne peux pas vous en dire plus.
J'entends, je le vois à votre regard. Quelle est la place des voyages dans votre vie ? On a parlé en début d'émission de votre voyage familial, retour aux sources, on va dire, à Madagascar. Est-ce que vous êtes un grand voyageur ?
Je ne dirais pas ça, je ne suis pas un grand voyageur. J'ai commencé à voyager très tard. Quand j'étais enfant, avec mes parents, famille nombreuse, on n'avait pas la possibilité de voyager. Donc j'ai commencé à voyager très tard. Je pense que mon premier voyage, je devais avoir peut-être 25 ans, 26 ans peut-être. Et donc je ne suis pas un grand voyageur, mais j'aime beaucoup voyager. Je voyage autant qu'il est possible, dès que je le peux. Voilà. Mais sinon, mes voyages sont malheureusement ne sont pas aussi fréquents que je le souhaiterais.
Alors, on a déjà dépassé l'heure de l'émission. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais je vais en choisir une parce que je suis bien obligée de choisir. La place de la religion. Pour Denis qui a 53 ans aujourd'hui, pas Denis petit garçon comme on l'a dit tout à l'heure, qui a donc été élevé dans une famille catholique en étant dans une école privée catholique, enfin jésuite. Quelles sont vos croyances à aujourd'hui, entre guillemets, hein, croyances, et quelle est cette place de la religion pour vous aujourd'hui ? Et attention, je vais simplement finir. Après, je vous laisse répondre. Mais la toute dernière question avant qu'on coupe, je m'adresse aux philosophes. Avez-vous peur de la mort ?
Je vais répondre d'abord à la première question.
Oui, bien sûr.
Alors, je ne suis, pour être clair, je ne suis d'aucune religion. Je pense que la religion, les religions posent un certain nombre de problèmes. Je réfléchis beaucoup d'ailleurs sur cela. J'y consacrerai sans doute un livre. Je pense que les religions posent beaucoup de problèmes. Ça serait beaucoup trop long, évidemment, en quelques instants, d'exposer cela. Mais je ne suis d'aucune religion. Ce qui ne veut pas dire... Je sépare la religion et la spiritualité. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de au moins de questionnements spirituels qui me sont propres. Et j'en parle jamais, puisque je considère que c'est quelque chose qui relève d'une vie profonde, intime, profondément intime. Donc je n'en parle jamais. Pour ce qui est de la religion, aujourd'hui, je n'adhère à aucune religion, à aucune institution religieuse. Avec mon regard d'homme, avec mon regard de philosophe, voilà la seule chose que je peux dire sur cette question. Pour ce qui est de la mort, écoutez, oui, j'ai peur de la mort de temps en temps. Parfois oui, parfois non. Ça dépend des moments. Il y a des instants où je n'ai absolument pas peur et d'autres moments où j'ai peur.
Donc c'est soit l'homme qui réagit, soit le philosophe. Là.
Oui. Et puis après, finalement, peut-on répondre à une question comme ça ? C'est difficile. On peut très bien ne pas avoir peur de la mort et puis être effrayé au moment où elle vient. Et inversement, on peut en avoir peur et être en paix le jour où elle arrive. Donc je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. Par contre, ce qui est sûr, c'est un peu banal ce que je vais vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai peur de la mort des autres, de la mort des gens que j'aime, et d'ailleurs pas simplement de la mort d'un être humain. Ça oui, ça c'est évident. Ça, c'est ça peut être une terreur parfois pendant quelques instants. Mais pour ce qui est de ma mort, ça va, ça vient. Voilà. Je verrai ça le jour où ça arrivera, si d'ailleurs j'en ai conscience. Voilà.
Merci, merci Denis, au revoir.
Merci Irène. Merci.